Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Makot, page 7, Daf Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Ilah et Tuvia, c'était le nom de deux témoins qui avaient signé sur une reconnaissance de dette. Par exemple, M. Rouven doit 100 francs à M. Shimon. Et comme garant, il y a M. Lévi. Et la Gemara nous dit que Ila et Tuvia, ils étaient proches parents du garant, mais pas du prêteur ni de l'emprunteur. Alors ça va Rav Papa les mêmes, Rav Papa a pensé dire, Gabelov et Omal verichikeninu, étant donné qu'à propos du prêteur, par rapport au prêteur et à l'emprunteur, ils ne sont pas comme étant, ils ne sont pas des proches parents, alors ils peuvent témoigner. Il n'y a pas de problème. Azamar le Ravuna, le béret de Rav Yoshua le Rav Papa, Ravuna le fils de Rav Yoshua lui dit à Rav Papa, il dit le lalové, la batara vasil, malvé. Si l'emprunteur n'a pas d'argent, si le prêteur n'a pas d'argent, est-ce que l'emprunteur ne va pas aller auprès du garant? Et donc il va se trouver qu'en fait, l'emprunteur va encaisser sa dette, le prêteur va encaisser sa dette du garant. Et donc, en fait, par l'intermédiaire de ces deux témoins, Ila et Tuvia, ils témoignent sur le garant. Et donc, une telle reconnaissance de dette est disqualifiée, car on les considère comme étant proches parents des deux parties. La Mishnah nous dit, Mishenig Mardino, quelqu'un dont la sentence a été rendue. Ubarach, et il s'est enfui avant que l'on lui applique sa sentence. Ubalifne Otobedin. Et il est revenu devant le même tribunal, c'est-à-dire il s'est fait rattraper et on l'a ramené devant le même tribunal. En soptrin et dino. Alors, on ne reprendra pas le jugement, mais étant donné que telle et telle sentence a été rendue contre lui, on lui appliquera la sentence. Kol makom she'andushnaim. La Gemara prend maintenant un autre cas. Chaque endroit où deux personnes se tiendront devant le tribunal, c'est-à-dire deux témoins, veillons et diront. Meidi manu bishploni, nous témoignons sur monsieur Antel. Shenigmar dino bebedin shelploni. Que une sentence a été rendue contre lui dans le tribunal de Rav Intel. Ou ploni et Dav. Et monsieur Tel et Intel étaient ses témoins. Et si c'était une sentence de mort, arrêtez et arrêtez. Alors, une telle personne, on lui appliquera immédiatement la peine de mort et on le tuera sans avoir besoin de juger à nouveau. Sanhedrin noeget baaretz ou bechutz laaretz. Le tribunal, les lois du tribunal et d'usage, soit dans la terre d'Israël, soit à l'extérieur de la terre d'Israël. Sanhedrin aoreget achad beshavua, un tribunal qui rend une peine de mort une fois tous les 7 ans, nikret chovlanit, est appelé meurtrier. Rabbi Eliezer ben Azariah Omer, Rabbi Eliezer ben Azariah dit, achad leshivim shana, une fois tous les 70 ans, pas tous les 7 ans. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva Omer, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva disent, iloa enu besanhedrin, si nous étions au tribunal, l'onerag adam meolam, une personne n'aurait jamais été tuée, c'est-à-dire nous n'aurons jamais rendu de peine de mort. Et nous allons expliquer dans la Gemara comment pouvait-il faire une chose pareille. Rab Shimon ben Gamliel dit, afel marbin shofre damim beIsrael. S'il se conduisait comme ça, alors ils entraînaient la multiplication des assassins parmi le peuple d'Israël. Car étant donné que les gens savent que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva qui sont au tribunal vont toujours s'arranger pour que une peine de mort ne soit pas rendue, alors ils ne vont pas avoir peur de tuer. La Gemara maintenant se rapporte sur ce que nous avons dit au début de la Mishnah. Une personne qui, contre laquelle a été rendue une sentence, et s'est enfui avant que l'on applique la sentence, si elle revient devant le même tribunal, alors on lui appliquera immédiatement sa sentence. La Gemara prend de là. L'ifne oto bedin ou tiensotin. C'est seulement devant le même tribunal qu'on ne rejugera pas. Mais s'il vient devant un autre tribunal, Sotrin, on le rejugera. Attends, Sefa, pourtant nous avons enseigné à la fin de cette même Mishnah, Kol Makom Shandushnaim, tout endroit où se tiendront deux témoins devant un tribunal, Veyomru et diront, Medimanu et Ishploni, nous témoignons sur Monsieur Antel, Shenigmar Dino Bebedin Ploni, que une sentence a été rendue contre lui devant le tribunal de Rav Intel. Ou ploni et Dav, et Monsieur Tel et Antel étaient ses témoins, Arezenera, dans un cas pareil, il sera tué. Il sera passible de la peine de mort, si c'était une peine de mort qui était rendue contre lui. Donc nous voyons que même si c'est devant un autre tribunal, on ne le rejugera pas. Alors la Gemara répond, Lokasha, ce n'est pas une question. Kan Beret Israël, Kan Bechutz Laaretz. Ça c'est en Eretz Israël, et ça c'est à l'extérieur de la terre d'Israël. Et nous expliquons immédiatement. Détail, car nous avons signé dans une braïta. Rabbi Yehuda ben Dusta Yomer, Mishum Rav Shimon Menchetar. Rabbi Yehuda ben Doussa dit au nom de Rabbi Shimon ben Shetach, Barach Maaret Lechutz Laaret, quelqu'un qui s'enfuit de la terre d'Israël à l'extérieur de la terre d'Israël après qu'une sentence ait été rendue contre lui, En Sotrin et Dino. Alors si après il y a deux personnes qui témoignent contre lui devant un tribunal que monsieur tel et tel a été rendu passif de peine de mort dans tel et tel tribunal en Eretz Israël, alors on ne le rejugera pas et on appliquera immédiatement la peine. Avant s'il s'enfuit, Michutz Laaret Laaret, s'il s'enfuit de l'extérieur de la terre d'Eretz Israël vers la terre d'Eretz Israël et il se fait rattraper dans la terre d'Eretz Israël, donc il se fait juger, il passe à nouveau devant le tribunal en terre d'Israël, alors ce trine dit non, on le rejugera. Pourquoi? À cause du mérite de la terre d'Israël. Et peut-être que grâce au mérite de la terre d'Israël, on lui trouvera un mérite quelconque, et donc on trouve une raison pour ne pas lui appliquer la peine de mort. Je me rapporte maintenant un extrait de la Mishnah. Sanhedrin noeged vechule. Le tribunal est d'usage, etc., c'est-à-dire soit en terre d'Eretz Israël, soit à l'extérieur de la terre d'Eretz Israël. Mina, la Gemara demande, Mina Nemile, d'où l'apprenons-nous? Des Tanou Rabbanan, car nos sages nous ont enseigné. Ve'ayu ele lachem le chukat mishpat le dorotechem. Il est dit dans le verset, et ceci seront pour vous les règles de la loi dans toutes vos générations. Et la continuation du verset nous dit, Bechol moshvotechem. Dans toutes vos demeures. La manou, alors de là, nous apprenons, les Sanhedrin, Shinoeket, Baaretz ou Bechustarez, que le tribunal est d'usage, et en terre d'Israël, et à l'extérieur de la terre d'Israël, à chaque endroit où les béné d'Israël vivent. C'est ainsi, pourquoi il dit à propos du tribunal dans les villes qu'on devra l'installer seulement dans les villes des Béné Israël. Alors, de là, nous apprenons, Bisharecha dans les villes des Béné Israël, c'est-à-dire dans la terre d'Israël, on installe des tribunaux dans chaque région et région et dans chaque ville et ville. Ou Bechotlaret, mais à l'extérieur de la terre d'Israël, tu installes des tribunaux dans chaque région, mais tu n'installes pas dans chaque ville. La Gemara rapporte maintenant l'extrait de la Mishnah. Sanhedrin a oreged vechule. Un tribunal qui rend une peine de mort une fois tous les 7 ans est appelé meurtrière. D'après Rabbi Lazar ben Azaria, une fois tous les 70 ans. Alors, ils se sont posé la question. Est-ce que d'après Rabbi Lazar ben Azaria, une fois tous les 70 ans, c'est aussi appelé meurtrier? Odilma, ou peut-être une fois tous les 70 ans, orakharaï. Ça, c'est l'habitude. Teko, c'est. Alors, on nous dit, ça reste un doute. La Gemara rapporte maintenant un autre extrait de la Mishnah. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva omrim, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva disent, ilo aïnou sham, si nous étions là-bas, etc., nous n'aurions jamais rendu de peine de mort. La Gemara demande, eche avoade, comment aurait-il pu faire pour ne pas rendre de peine de mort? Si deux témoins viennent témoigner, alors que telle et telle personne a fait telle et telle chose, c'est sûr qu'ils devront rendre la sentence de peine de mort. Alors Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, d'Amri Tarvayo, Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar qui ont dit les deux ensemble, ils posaient la question suivante. Raitem trefarag shalemarag. Est-ce que vous avez vu, est-ce que la personne qui a été assassinée a été atteinte d'une maladie fatale? Et Rashi nous dit qu'il y avait 18 signes pour vérifier cette chose-là, ou pas? Et ou est-ce que c'était une personne entière en bonne santé? Or, si cette personne était atteinte d'une maladie fatale, alors l'assassin n'est pas passible de peine de mort. Et donc, puisque c'est sûr que les témoins n'ont pas vérifié ces 18 signes, alors ils ne sauront répondre à une telle question, et donc on ne pourra pas rendre la peine de mort. Amar Ravashi, Ravashi nous dit, même si tu nous dis qu'ils ont vérifié que la personne qui a été assassinée n'était pas atteinte de ces 18 signes, était une personne en bonne, et donc était en train d'une personne en bonne santé, il lui disait, Dilma, peut-être, bien comme ça, Ifnekevava, à l'endroit où l'épée est passée, il y avait un trou qui atteignait les poumons, ou la trachée artère, et donc c'était un des 18 signes, et donc il était atteint d'une maladie fatale, et donc on ne peut tuer l'accusé. Lorsque l'accusé était accusé d'avoir eu des relations intimes avec une femme qui lui était interdite, comment faisait-il? Alors Abaye et Rava d'Amrit Arvayou, Abaye et Rava qui disaient ensemble, c'était ça la question qu'ils posaient. Raïtel qui mikrol bechfoferet, est-ce que vous avez vu comme un pinceau qui rentre dans un tube, c'est-à-dire est-ce que vous avez vu la liaison vraiment? Et puisque c'est sûr que les témoins n'ont pas vu la liaison, on ne pouvait rendre peine de mort contre l'accusé. Verabanan, alors les sages, Echidaine, comment pouvait-il, oui, rendre une peine de mort, puisque les témoins n'ont pas vu la lésion, mais juste un homme et une femme qui sont allongés l'un à côté de l'autre? Alors, Gemara nous répond, comme Shmuel, comme l'enseignement de Shmuel, Shmuel a dit, Bemenafim, lorsque nous jugeons des personnes qui ont eu des relations intimes, Misherauk et Menafim, ils seront passibles de peine de mort à partir du moment où on a l'impression qu'ils ont une liaison intime. C'est-à-dire lorsque nous voyons un homme et une femme, même si on ne voit pas vraiment la liaison, mais on a l'impression qu'ils ont une liaison intime, et ils sont conduits comme s'ils avaient une liaison intime, alors à partir de ce moment-là, ils sont passibles de peine de mort. Hadran alar ketzad haedim, Hadran alar ketzad haedim, Hadran alar ketzad haedim. Nous reviendrons vers toi le premier chapitre de Maseret Makot, Ketzad Ha'Edim.
Nous allons commencer Be'ezrat Hashem, le deuxième perek de Maseret Makot. Auparavant, il faudrait faire une petite introduction. Ce deuxième perek va nous parler des lois d'un quelqu'un qui a commis un meurtre involontairement. Il faut savoir que la Torah nous a dit que lorsque quelqu'un commet un meurtre, si cela est volontaire, alors le meurtrier est passible de peine de mort. Mais si le meurtre a été commis involontairement, sans faire exprès, alors dans un cas pareil, le meurtrier devra partir dans une ville de refuge. Il devra avoir une peine d'exil. Et ce second chapitre de Maseret Makot va nous expliquer les lois de quelqu'un qui a commis un meurtre sans faire exprès. Quelles sont toutes ces lois à propos de son exil? C'est-à-dire, quelles sont les villes de refuge dans lesquelles il devra partir en exil? Combien de temps il devra partir en exil? Qu'est-ce qui est appelé un meurtre involontaire? Et etc. Et c'est ce que nous allons apprendre dans ce second pérec. Nous commençons par Be'ezrat Hashem. Elohen Agoli. Et voici les personnes qui seront exilées. Aoreg Nefesh Bishgaga. Quelqu'un qui a tué sans faire exprès. Et la Mishnah va nous citer des exemples. Aya me'agel be'ma'agila. S'il était en train de pousser le rouleau, venafla alav, et elle est tombée sur lui, ve'arakto, et elle a tué. Et Rashi nous explique, ça veut dire quoi pousser le rouleau? À l'époque, les toits des maisons n'étaient pas comme maintenant faits de tuiles et penchés, mais ils étaient plats. Et pour faciliter l'écoulement des eaux, alors on le faisait un tout petit peu penché grâce à de la chaux. C'est-à-dire que quelqu'un se mettait sur le toit et faisait que le bout du toit, d'un côté, était plus épais que de l'autre côté, et donc ça se faisait un petit peu pencher. Maintenant, comment faire cela? On se mettait du côté qui était plus épais, et avec un rouleau, on poussait de la chaux. Donc ça s'appelle le fait de pousser la chaux. Donc maintenant, s'il était en train de pousser le rouleau, et le rouleau lui a glissé des mains et est tombé sur quelqu'un qui était en bas et l'a tué, alors dans un cas pareil, il partira en exil, il sera exilé. Ayam echarchel bechavit, ou alors il est en train de faire descendre un tonneau. Benafla alav, et lui a glissé des mains et elle est tombée sur lui, sur quelqu'un qui était en bas, vers Akto et elle a tué. Oh, aya yored besulam, ou alors un cas de quelqu'un qui était en train de descendre d'une échelle. Benafla alav, il est tombé de cette échelle sur quelqu'un, vers Akto et il a tué. Alors dans tous ces cas-là, Rezegola, il sera exilé. Aval, mais, im aya mosher bemagila, il était en train de tirer le rouleau vers lui, pas de le pousser vers le bas, mais de le tirer vers lui, c'est-à-dire vers le haut, et il lui a glissé des mains, benafla alav, vers Akto. Et il est tombé sur quelqu'un d'en bas et l'a tué. Oh, ou alors un cas de Ayad Ole Bechavit. Il était en train de tirer vers lui un tonneau, c'est-à-dire de faire monter un tonneau. Venifsak Hevel. Et la corde a craqué, s'est déchirée. Venafla ala varakto. Et elle est tombée sur la personne qui était en bas et l'a tué. Nous passons à la page suivante. Ou alors un cas de Ayad Ole Bechavit.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Page suivante. Ou alors un cas de Aya Ole Besulam, quelqu'un qui est monté sur une échelle, Venafal Alav, et lorsqu'il est en train de monter, il est tombé sur quelqu'un en bas, Varago, et il l'a tué, Areze Nogole. Dans tous ces cas-là, il ne sera pas exilé. Et la Mishnah nous dit, Zakelal, ceci est la règle. Kol Shebederer Yeridato. Golé, chaque fois que le meurtre a été commis, lorsque c'était en descendant, comme les cas que nous avons cités dans la Mishnah, il faisait descendre un tonneau, il poussait le rouleau vers le bas, ou il descendait d'une échelle, alors dans un cas pareil, il sera exilé. Véchelo bederirato, et lorsque ce n'est pas en descendant, et no golé, il ne partira pas en exil, il ne sera pas exilé. Et nous allons apprendre dans la Gemara pourquoi. La Gemara nous dit, Mina hanemile, d'où l'apprenons-nous? Amar Shmuel. Shmuel nous dit, de Amarkra, car le verset nous dit, Vayapel alav vayamot. Il a fait tomber sur lui et il est mort. À propos d'un meurtrier involontaire. Le verset comme ça nous dit. Et nous apprenons de là, Acheipol de Ernefila. Il faut que l'objet tombe d'une façon dont les objets tombent. Et que, comment, c'est quoi la façon dont un objet tombe? C'est du haut vers le bas. Donc de là, nous apprenons que tout le cas qui a été cité dans le verset d'un meurtrier involontaire qui partira en exil, c'est seulement le cas lorsqu'il a tué en faisant un mouvement vers le bas, un mouvement en descente. La Gemara nous dit maintenant, Tanou Rabanan, nous avons appris, Bishgaga, il écrit dans le verset qu'il a tué sans faire exprès, Prat le Mézid, ça vient nous exclure le cas où il a tué exprès. Bivuli da'at, s'il a tué involontairement, prat le mitkaven, ça vient nous expliquer le cas où il a tué avec intention. La Gemara demande, quel est le sens de cette explication, de cette étude? Mézid, toi tu viens me dire que ça vient nous exclure le cas de Mézid, s'il a tué exprès qu'il ne sera pas passible des îles. Pshita, c'est évident, Bakhtalaou, quelqu'un qui a tué exprès est passible de peine de mort. Amarava, alors Rava nous dit, Ima, non, c'est comme ça qu'il faut dire. Prat l'omer moutar, ce qui est écrit dans le verset Bishgaga sans faire exprès, ça vient nous exclure le cas de quelqu'un qui dit, qui pense qu'il est permis de tuer. Alors une personne pareille ne partira pas en exil. Amarle Abaye, alors Abaye lui a dit, Iomer Mutar, Anusu. Si une personne pensait qu'il était permis de tuer, alors ça s'appelle Anus. Cela ressemble à un cas imprévisible. Dans un cas imprévisible, on ne part pas en exil. Donc pourquoi avons-nous besoin d'un verset pour nous le dire et pour nous le dire? Alors Amarle, alors Rava lui a répondu, Chez Aniomer, non, parce que moi je dis, à Omer Mutar, celui qui pense qu'il est permis de tuer, Karov le Mezidou, il est plus proche de quelqu'un qui a fait exprès que de quelqu'un qui a commis un meurtre dans un cas imprévisible. Donc en fait, Rava nous dit, puisque Omer Mutar, c'est plus proche de quelqu'un qui a fait exprès, j'aurais pu penser qu'il devra peut-être quand même partir en exil, qu'il devra quand même être exilé, et c'est ce que le verset est venu nous apprendre. Agma nous dit, Bivlidat, ce qui est dit maintenant, Bivlidat, sans intention, Prat le Mitkaven, ça vient nous exclure celui qui a tué intentionnellement. Agma demande, Mitkaven, pourquoi veux-tu me dire que ça vient nous exclure de celui qui a tué intentionnellement, qui ne partira pas en exil? Pshita, cela est évident, Bakhtalaou, quelqu'un qui a tué intentionnellement est passible de peine de mort. Alors Amaraba, Rabba vient et nous dit, il vient nous expliquer, non, c'est quoi l'intention du verset? Prat le Mitkaven, la rog et abema, varag et adam. Les Kuti, Varag Israël, les Nefel, Varag Ben Kayama. Ça vient nous exclure le cas de quelqu'un qui avait l'intention de tuer une bête et l'a tué un homme sans faire exprès. Ou il avait l'intention de tuer un Kutéen et l'a tué un Juif sans faire exprès. Ou alors il avait l'intention de tuer un nouveau-né non viable et il a tué un nouveau-né qui était oui viable sans faire exprès. Donc j'aurais pu penser que dans tous ces cas-là, ça paie qu'il a tué sans faire exprès, qu'il est quand même passible de peine d'exil, et c'est ça que le verset vient nous exclure, que non, puisqu'il n'avait pas l'intention de tuer la personne qu'il a tuée, alors il ne partira pas en exil. Tanu Rabbanan, nous avons appris dans une braïta, il est écrit dans le verset Imbepeta, si soudainement, alors c'est une lecture, Prat le Keren Zavit, s'il a tué dans un coin, Beloeva, sans haine, Prat le Sonné, ça va nous exclure l'ennemi. L'ennemi ne partira pas en exil. Hadafo, il a poussé. Alors ça vient nous exclure, ça vient nous dire, Shedachafo begufo, qu'il a poussé avec son corps. O ishlichalav, et ce qui est écrit dans le verset, où il a jeté sur lui, l'ahvi yerida shitzorechalia. Ça vient nous inclure le cas d'une yerida shitzorechalia, c'est-à-dire de quelque chose, d'un mouvement qui est descendant pour le besoin d'un mouvement ascendant. Comme nous allons l'expliquer un peu plus bas dans la Gemara. Belotzdia, ce qui est écrit dans le verset sans viser, Prat le mitkaven le tzadze, ve'alchala le tzadacher. Ça nous exclure le cas où il a jeté une pierre, il avait l'intention de le jeter d'un côté, et la pierre, par exemple, lui a glissé des mains, elle est partie de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y avait quelqu'un, et ce quelqu'un a reçu la pierre et est mort. Alors, dans un cas pareil, il ne partira pas en exil. Va'acher l'autre. L'otzada, et ce qui est écrit dans le verset est celui qui n'a pas visé, Prat le mitkaven lizrok shtaim, lezarak arba. Ça va nous exclure le cas de quelqu'un qui avait l'intention de jeter une pierre sur deux coudées, et la pierre est partie plus loin que ce qu'il ne pensait, et elle est partie à quatre coudées. Et au bout des quatre coudées, il y avait quelqu'un qui a reçu la pierre et qui est mort. Alors dans un cas pareil, il ne sera pas exilé. Vacher, yavo et reo bayard, et celui qui vient avec son ami dans la forêt. Alors qu'apprenons-nous de là? Maya Reshut, de même que la forêt, c'est un endroit chez la Nizak ve la Mazik, les Kanes Lesham, celui qui a été endommagé et l'endommageur, les deux, avaient le droit de rentrer là-bas. C'est-à-dire, en fait, l'endommagé et l'endommageur, ici, nous parlons de l'assassin et de celui qui a été assassiné. Avkol Reshut, la Nizak ve la Mazik, les Kanes Lesham. De là, nous apprenons que tous les cas dont la Torah a parlé, que l'assassin sera exilé, c'est seulement dans le cas où le meurtre a eu lieu dans un endroit où l'endommagé et l'endommageur avaient le droit de rentrer là-bas, c'est-à-dire l'assassin et l'assassiné. Et donc ça vient nous exclure par exemple le cas où quelqu'un a jeté une pierre dans sa cour et il y avait là-bas quelqu'un qui est rentré sans permission dans cette cour. Alors si c'est sûr que c'est un meurtre involontaire, sans faire exprès, mais étant donné que l'assassiné n'avait pas le droit de rentrer là-bas, alors l'assassin ne sera pas exilé. Baemine Rabbi Abaou mi Rabbi Yochanan. Rabbi Abaou a demandé à Rabbi Yochanan. Aya ole besulam. Si quelqu'un était en train de monter sur une échelle. Venishmat ashliva mitartav. Et l'échelon a glissé de dessous de lui. Venafla. Et cet échelon est tombé. Veharga. Et il a tué. Mao. Quelle est la loi dans un cas pareil? Mao kiagavna. Alors, kiagavna. Dans un cas pareil, aliai. Est-ce que ça s'appelle un mouvement ascendant, une montée, étant donné que la personne était en train de monter sur l'échelle? Oyeridai, ou alors allons-nous dire qu'un capare s'appelle un mouvement descendant, une descente. Pourquoi? Parce que l'échelon, lorsque la personne montait sur l'échelle, il appuyait sur l'échelon, donc l'échelon allait vers le bas. Azamarle, il lui a dit, Kvarnagata beyerida shitzorechalia. Là, tu touches au sujet qui s'appelle un mouvement descendant pour le besoin d'un mouvement ascendant. Et donc c'est le cas que nous avons cité plus haut, que dans un cas pareil, il partira, oui, en exil, bien que la personne qui montait, elle faisait un mouvement ascendant, elle est en train de monter, mais c'est un mouvement, il est ce mouvement descendant de l'échelon qui était pour le besoin du mouvement ascendant de l'homme, est quand même considéré comme étant un mouvement descendant. La Gemara demande, itivé, la Gemara demande, zakelal. Ceci est la règle, ce qui est écrit dans notre Mishnah. Kol shebederech iridato gole. Chaque chose qui a tué lorsqu'il était en train de descendre, alors dans un cas pareil, il partira en exil. Shelo bederech iridato, et s'il a tué pas lorsqu'il n'était pas en train de descendre, et no gole, il ne sera pas exilé. Ragma demande. Shelo bederech iridato. Ce que nous avons cité dans la Mishnah, le cas d'un mouvement qui n'est pas un mouvement descendant. Litu yemai. Qu'est-ce que c'est venu nous inclure? L'ablatouye qui avgaïvna, n'est-ce pas que c'est venu nous inclure un cas pareil d'un mouvement descendant pour le besoin d'un mouvement ascendant, qu'il n'est pas considéré comme étant un mouvement descendant puisqu'il est pour le besoin d'un mouvement ascendant? Et donc, puisque c'est ainsi, ça refuse ce que nous avons dit plus haut, qu'il sera exilé, puisqu'il écrit dans la Mishnah que dans un cas pareil, il ne sera pas exilé. Agma demande, velitaimir, mais d'après toi, c'est écrit dans la Mishnah, kol shebeder rideto, latouye mai. C'est écrit dans la Mishnah, et chaque chose qui est pour chaque mouvement qui est un mouvement descendant sera exilé. Pourquoi avons-nous eu besoin d'écrire cette règle-là? C'est-à-dire que la Gemara demande, étant donné que la Mishnah a cité une règle, alors la Gemara part d'une base que cette règle est venue nous inclure un cas spécial. Alors la Gemara demande, premièrement, qu'est-ce que la fin de la règle est venue nous inclure? Alors la Gemara, et donc nous voulons apprendre que la fin de la règle est venue nous inclure le cas d'un mouvement descendant pour le besoin d'un mouvement ascendant. Alors Agma refute, non, ce n'est pas possible. Car si tu veux me dire que cette règle est venue nous apprendre quelque chose, alors même le début de la règle est venu nous apprendre quelque chose. Et donc, nous avons besoin de savoir qu'est-ce que le début de la règle est venu nous apprendre. Et la Touye Ketav. Alors nous sommes obligés de dire que le début de la règle est venu nous apprendre le cas d'un boucher, comme nous allons le citer un peu plus loin. Alors, Achanam il est Touye Ketav. Donc nous disons, alors si le début de la règle est venu nous apprendre le cas du boucher, alors la fin de la règle est aussi venue nous apprendre le cas du boucher. Détail, hein, parce que nous avons appris dans une braïta. La Gemara maintenant va nous expliquer c'est quoi le cas du boucher. Katsav Shaya Mekatsev, un boucher qui était en train de couper la viande. Tanachada, nous avons appris une fois. Lefanav Chayav, s'il a tué, c'est-à-dire il avait un couteau et il est en train de couper de la viande. Donc maintenant, s'il a tué devant lui, alors il est passible d'exil. L'achara, s'il a tué lorsque le couteau était derrière lui, pas tout, il est exempt. Vetani Aïdar, et nous avons appris ailleurs. L'achara, s'il a tué derrière lui, Chayav, il est passible d'exil. L'efanav, s'il a tué devant lui, pas tout, il est exempt. Vetani Aïdar, et nous avons appris dans une autre braïta. Ben l'efanav, ben achrav, qu'il ait tué devant lui ou qu'il ait tué derrière lui, Chayav, de toute façon, il est passible d'exil. Vetani Aïdar, et nous avons appris ailleurs. Ben l'efanav, ben l'achrav, qu'il ait tué devant lui ou qu'il ait tué derrière lui, de toute façon, il est exempt. Pas tout, il est exempt. Donc c'est apparemment des braïtotes qui se contredisent l'une à l'autre. Et la Gemara nous explique, Velo Kashan. Et non, ce n'est pas difficile. Et la Gemara nous explique comment se passe le cas d'un boucher. Car il faut savoir, lorsqu'un boucher coupe la viande, alors il prend le couteau et le tient devant lui. Maintenant, avec un geste, il le fait passer derrière lui. Et avec ce geste-là, donc en fait, il monte sa main, il la fait passer derrière lui. Donc dans un cas pareil, ça s'appelle que devant lui, il monte et derrière lui, il descend. Puis après, avec force, il fait passer sa main de devant lui, de derrière lui, à devant lui, pour couper la viande. Et donc, dans un cas pareil, derrière lui, il monte, et devant lui, il descend. Donc, en fait, il se trouve que, et devant lui, et derrière lui, suivant le geste qu'il fait, alors, il y a un mouvement ascendant, un mouvement descendant. Alors, la Gemara vient nous expliquer. Velo kasha, et ce n'est pas difficile. Kan beyerida shelefanav ve'aliyah shelacharav. Là, ça vient nous parler d'un cas lorsque il fait descendre sa main devant lui. Alors, dans un cas pareil, il sera passible d'exil. Et lorsque derrière lui, ve'aliyah shelacharav, et derrière lui, il fait monter sa main. Alors, dans un cas pareil, il sera exempt d'exil derrière lui, s'il a tué lorsque la personne était derrière. Kan be'aliyah shelefanav ve'yerida shelacharav. Et l'autre vraita, alors ça vient nous expliquer le cas où devant lui, il est en train de faire monter sa main. Donc c'est pour ça que, puisque c'est dans un mouvement ascendant, il est exempt d'exil. Mais derrière lui, il est en train de faire descendre sa main. Donc c'est pour ça que s'il a tué quelqu'un qui était derrière lui, il sera passible d'exil. Et le cas où nous avons dit que ce soit devant lui ou que ce soit derrière lui, il est passible d'exil. Alors c'est un cas, nous parlons de cas où il faisait descendre sa main devant et dans un cas où il faisait descendre sa main derrière. Et le cas, et la Braïta qui nous a dit que dans les deux cas il était exempt d'exil, c'est dans le cas où il était en train de faire monter sa main devant lui et dans le cas où il était en train de faire monter sa main derrière lui. S'il a tué quand il faisait ce geste, alors il sera exempt d'exil. Et donc, c'est pour nous inclure tous ces cas que la règle a été amenée dans la Mishnah. Et donc, c'est pour ça que de la Mishnah, il n'y a pas de preuve pour le cas d'un mouvement descendant que l'on fait pour le besoin d'un mouvement ascendant. Alors, nous revenons à ce que nous avons dit plus haut, à la question qui a été posée, et Rabbi Yochanan qui a répondu que dans un cas pareil, il sera, oui, passible d'exil. La Gemara demande, Lima Ketanaï, allons-nous dire que ce cas-là dépend d'une discussion entre les Tanaïm? Pourquoi? Car il est dit, Aya Ole Besulam, s'il est en train de monter sur une échelle, Venishmeta Sheliva Metartav, et l'échelon a glissé de dessous lui, Tanechade Chayav, nous avons appris dans une braïta qu'il est passible d'exil, Vetanyeidar, et nous avons appris ailleurs, Pato, qu'il est exempt. Donc nous voyons apparemment le cas explicite que Rabbi Abaou a posé comme question à Rabbi Yochanan, et nous voyons une discussion entre les Tanaïm dans un cas pareil. Alors, Maïlav, n'est-ce pas, Beakamfige, que cela est leur discussion. Des Mar Savar Yeridaï, que un des Tanaïm pense que ça s'appelle un mouvement descendant, et donc il est passible d'exil. Ou Mar Savar, et l'autre Tanaïm pense, Aliyai, non, ça s'appelle un mouvement ascendant, et donc il est exempt d'exil. Alors, on répond, non. Découlé Alma, d'après tout le monde, Aliyai. Ça s'appelle un mouvement ascendant et l'exemple d'exil. Velo kasha, et ce n'est pas difficile, il n'y a pas de contradiction entre les Tanaïm. Pourquoi? Parce que nous parlons de deux choses différentes. Kan les Nézikin, kan les Galout. Dans le premier Braïta, nous parlons des cas des dommages, c'est-à-dire si le chelon a causé des dommages. Dans un cas pareil, il sera khayab, il sera passible de payer les dommages. Kan les Galout, mais le deuxième Tana qui nous a parlé et qui nous a dit Patour il est exempt, il nous parle de Galout d'exil. C'est-à-dire que pour le point de vue de l'exil, c'est considéré comme étant un mouvement ascendant et l'exempt, mais pour les dommages, étant donné qu'il n'y a pas de différence lorsqu'on a causé un dommage, si on l'a commis en faisant un mouvement ascendant ou un mouvement descendant, il sera de toute façon passible d'exil et de payer les dommages. Ibaïtema, si tu veux dire, non, Avea le Galout, les deux Tanaïm nous parlent de Galout, d'exil. Ah, et il n'y a Velo Kasha, et ce n'est pas difficile, il n'y a pas de contradiction entre les Tanaïm. Pourquoi? Adelatlia. Ça, nous parlons d'un échelon qui était véreux, et ça, nous parlons d'un échelon qui n'était pas véreux. C'est-à-dire, un échelon qui était véreux, alors automatiquement, se plie lorsqu'on monte dessus. Et donc, automatiquement, l'échelon en lui-même, alors lui-même descend vers le bas. Donc, l'échelon s'appelle un mouvement descendant. Et donc, c'est pour ça que dans un cas pareil, il sera passible d'exil. Mais, dans un échelon qui était en bon état, alors l'échelon reste ferme sous les pieds de la personne qui monte, et donc ça n'appelle pas un mouvement descendant, l'échelon reste ferme et droit. Donc c'est pour ça que dans un cas pareil, alors il est exempt d'exil. Veibaitema, si tu veux dire, avea de l'atlia. Dans les deux cas, nous parlons d'un échelon qui n'a pas été mangé par les vers. Velo kasha, et malgré cela, ce n'est pas difficile, et nous pouvons expliquer les deux tanaïm. Ademiadak, vea de l'omiadak. Là, nous parlons d'un échelon qui est bien resserré dans son trou, et donc automatiquement, il reste ferme sous les pieds de la personne qui monte. Et donc c'est pour ça que si l'échelon a malgré tout glissé, il sera exempt d'exil. Ve'adelomiyadak. Et le cas où nous avons dit qu'il est passible d'exil, c'est dans un cas où l'échelon n'était pas bien serré dans les trous de l'échelle. Et donc automatiquement, lorsque la personne a monté, l'échelon allait vers le bas. Donc ça s'appelle un mouvement descendant. Donc étant donné, puisque c'est un mouvement descendant, il est passible d'exil. La Mishnah nous dit, Nishmat Abarzel Mikito. Si le fer de la hache s'est échappé de la poignée, Ve'arag, et il a tué. Rabbi Omer, Rabbi nous dit que dans un cas pareil, c'est-à-dire nous parlons d'un cas, quelqu'un qui était en train de couper du bois, et le fer de la hache s'est échappé de la poignée. Alors Rabbi nous dit dans un cas pareil, Enogolé, il ne sera pas exilé. Rabbi nous dit, dans un cas pareil, Golé, il sera oui exilé. Mina et Tamidvaka. Par contre, si un copeau a sauté de l'arbre qui était en train de se faire couper, alors Rabbi Omer, Rabbi nous dit que dans un, et ce copeau a tué, alors Rabbi nous dit, dans un cas pareil, Golé, il sera exilé. Les Chachamim nous disent, et non Golé, il ne sera pas exilé. Et nous ont expliqué dans la Gemara, quelle est la raison de leur discussion. Tanya, la Gemara nous dit, nous avons appris dans une braïta, Amar lahem Rabbi les Chachamim. Rabbi leur a demandé à Chachamim, Vechin emar venachal abarzel me'etzo, est-il dit dans le verset, et le fer a glissé de son bout de bois, c'est-à-dire de son manche, Valoloneemar et la minaet, mais il a juste été dit que le fer a glissé de l'arbre. Donc de là nous apprenons que pour être passible d'une peine d'exil, comme il est cité dans le verset, il faut qu'en fait un bout de l'arbre saute et tue, et non pas un bout de l'âge. Vod, et encore une preuve, Neemar et lemata, il écrit le mot et plus bas. Veneemar et lemala, et il écrit le mot et plus haut. Ma et amour le mala mina et amidvaka. De même que le mot et, lorsqu'il a été cité plus haut, nous parlons de l'et de l'arbre qui était en train de se faire couper. Afet amour le mata. Alors de même le mot et, lorsqu'il a été cité plus bas, mina et amidvaka. Nous parlons de l'arbre qui était en train de se faire couper. Et donc lorsqu'il a dit venachal la barzel mina et, et un bout de fer a sauté de là de l'arbre. Nous parlons de l'arbre qui est en train de se faire couper, c'est-à-dire qu'un copeau de bois a sauté de l'arbre qui est en train de se faire couper et a tué. Donc dans un cas pareil, il sera exilé. Mais si le fer a glissé de la hache, alors dans un cas pareil, il ne sera pas exilé. Nous avons fini le shiur de Daf Zayin. Nous commençons le shiur de Daf.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.